Bon, alors maintenant, asseyez-vous. Un nouveau débat donc va démarrer avec Alain Carré. Alain Carré qui est vice-président de l'association Santé et Médecine du Travail et qui va nous parler des menaces, des graves menaces sur la prévention des risques pour la santé au travail des travailleuses et des travailleurs. Ceux qui sont dans le fond, là, rapprochez-vous déjà. Pour laisser la place à ceux qui vont arriver après. Bon, je crois qu'on donne tout de suite la parole à Alain Carré.
Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, je ne pensais pas qu'on serait dans l'actualité quand j'ai accepté de faire ce débat, mais on est en pleine actualité puisque figurez-vous qu'on vient d'avoir il y a 24 heures les conclusions d'une commission chargée de réformer l'aptitude et la médecine du travail. Donc en fait j'ai transformé un petit peu ce que je voulais vous dire puisque il y a un certain nombre d'éléments d'actualité qui viennent de se produire et qui ne sont pas particulièrement positifs. Voilà, je rappelle pour ceux qui auraient un petit manque de mémoire que en fait, c'est en 1946 que la Constitution reconnaît que chacun a droit à une protection de sa santé. Donc, c'est pas 1846, hein, c'est 1946. Et donc, bien évidemment, c'est une obligation régalienne, c'est-à-dire l'État est obligé de mettre en place des éléments de protection de la santé. Pour la santé au travail, il met en place une institution qu'on appelle la médecine du travail. Bon, alors ça commence bien, mais ça se dégrade assez vite, parce qu'en fait, cette médecine du travail est plombée par un certain nombre d'éléments qui vont la maintenir en dessous du niveau de l'eau. Le premier élément, c'est la notion d'aptitude. On sort de la guerre, hein, service du travail obligatoire, les mécanismes sont engagés, et donc cette visite d'aptitude, c'est une véritable visite de sélection médicale. C'est-à-dire que si vous avez les capacités, par exemple, si vous êtes grand et fort, vous pouvez porter des charges. Si vous êtes petit et maigre, on va vous mettre à l'écart. Hein. C'est ça, l'aptitude, en fait. C'est une sélection médicale de la main-d'œuvre. Ça, c'est le premier frein. Le deuxième frein, mais c'est le plus important, c'est qu'on confie l'institution aux employeurs. Ce sont les employeurs qui vont gérer l'organisme chargé de la prévention des risques pour la santé au travail, à savoir la médecine du travail. Donc, je vais prendre une métaphore. Imaginez, par exemple, qu'on confie la lutte contre le tabagisme aux fabricants de tabac. C'est à peu près la même chose. Voilà. Donc ça va plomber définitivement le système, bien évidemment. Le troisième point, c'est qu'on va mettre sur le terrain des médecins, qu'on va appeler des médecins du travail, qui n'ont pas de formation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris où ils avaient mis les pieds. Ils ne savent pas qu'ils ont mis le pied sur une mine puisque, bien évidemment, ils croient, eux, qu'on leur a appris que la santé, c'était une valeur et que donc ils étaient chargés de défendre cette valeur par tous leurs moyens techniques. Et malheureusement, dans le milieu de travail, la santé est une contre-valeur. C'est-à-dire l'exploitation de la force de travail se fait toujours contre la santé des travailleurs. Je défie quiconque de me donner un exemple inverse. Voilà. Et donc les malheureux, là, ils sortent de la fac et ils s'aperçoivent que ils n'ont pas les balles qui vont dans le fusil. Hein, en plus, les gens qui les ont formés n'exercent pas le métier. Si vous faites de la cardiologie, par exemple, vous êtes formé par des cardiologues hospitaliers, mais néanmoins des cardiologues. Là, un enseignant en médecine du travail n'a jamais exercé la médecine du travail de sa vie. Donc vous vous imaginez, pauvre malheureux. Donc c'est une institution qui va péricliter pendant très très longtemps, gagner des galons extrêmement douteux du point de vue, bien évidemment, de l'intérêt de la santé des travailleurs. Et puis, dans les années 80, ça change. Il y a trois faits absolument essentiels. Un, les générations qui arrivent sur le terrain sont des générations qui ont été formées politiquement. Deux, se crée une association spécifique qui va rompre avec les habitudes qui s'appelle l'association Santé Médecine du Travail. Si vous voulez voir de quoi il s'agit, vous allez sur le site a-smt.org et vous allez vous apercevoir sous vos yeux ébahis qu'il y a des médecins du travail qui se sont positionnés du côté de la santé des travailleurs. Deuxième élément tout à fait intéressant, se crée une association qui s'appelle l'ALERT, Association pour l'étude des risques du travail. qui est fondée en particulier par Henri Pezra et Anité Beaumenu, qui doit succéder à ce débat, et qui va réunir à la fois des médecins, à la fois des spécialistes du champ de la santé au travail, mais aussi des syndicalistes de toute obédience. On va voir venir à ces réunions des syndicalistes qui sont à la CGT, à la CFTC, à la CFDT, et IFO, bien sûr, et qui vont venir discuter entre eux sur des questions de santé au travail. Donc c'est très, très important, cette création, et ça cristallise, puisque vous avez, en 1985, publication d'un livre qui s'appelle « Ne pas perdre sa vie à la gagner ». Donc Annie vous présentera probablement le « Ne pas perdre sa vie à la gagner » de Le Retour. Hein. Mais il y a un « Ne pas perdre sa vie à la gagner » qui va donner une impulsion à des pratiques nouvelles. Donc inutile de vous dire que, bien évidemment, ça ne fait pas l'affaire des employeurs. Et comme ça prend de l'essor, en 87, ils décident qu'il faut en finir avec la médecine du travail. Alors comment ils vont saper cette institution encore plus? Eh bien, premièrement, ils vont instituer, grâce à leurs relais gouvernementaux, une pénurie de praticiens. Donc il n'y a plus de médecins du travail. Donc on va prendre prétexte de cette pénurie pour changer les choses dans le mauvais sens. Deux, on va introduire quelque chose qui est très utile dans les services de santé au travail. C'est des spécialistes d'eau qui ne sont pas médecins, mais qui sont extrêmement compétents, mais on va vider leur statut de toute indépendance. Donc en fait, ils ont un apport technique tout à fait indispensable, mais on va les positionner dans une situation à la fois de subordination, premièrement, et deuxièmement, sur des secteurs qui ne sont pas forcément des secteurs prioritaires pour la santé au travail. Et troisièmement, il va y avoir une répression qui se met en place sur les médecins les plus avancés. La preuve en est les procès au Conseil de l'Ordre qu'on fait à l'heure actuelle, là, mon camarade Huez et à d'autres, de façon à impressionner les autres médecins. Eux, ça ne les impressionne pas. Hein. On est des médecins militants, donc on se fout absolument de passer dans une institution qui n'a aucune légitimité, à savoir le Conseil de l'Ordre des médecins. De toute façon, ce n'est pas ça qui va nous empêcher de continuer à penser comme on pense. Mais bien sûr, ça va faire peur aux autres médecins, et c'est ce qu'attend le patronat, bien évidemment, de sa petite manip. Alors, pourquoi est-ce que c'est d'actualité? Parce que là, cette commission dont je vous parlais vient de rendre son avis, et donc il est probable que la loi va se calquer sur son avis. Ça dit quoi? Ça dit, un, c'est terminé de la surveillance médicale individuelle. Il n'y aura des visites que tous les 5 ans. 5 ans minimum, et encore pour les postes de sécurité. Donc, inutile de vous dire, étant donné la précarité des contrats, qu'un médecin ne verra jamais deux fois le même salarié. C'est absolument une destruction, disons, à la fois, disons, bien évidemment, pour les salariés, mais c'est une destruction pour les médecins, puisque vous ne pouvez pas construire une visibilité sur les risques professionnels, simplement en voyant les gens comme ça, sporadiquement, de façon extrêmement parcellaire. Alors, bien sûr, on va y substituer des visites effectuées par des infirmiers du travail, qui vont être formés, qui vont être compétents, sous la supervision des médecins, mais il reste néanmoins que ces visites seront effectuées par des salariés qui n'ont pas un statut d'indépendance comme le peuvent l'avoir les médecins. Donc ça, c'est, la partie clinique, c'est-à-dire la clinique, c'est-à-dire ce qui vous permet de travailler quand vous êtes médecin, va être complètement sapé par ces mesures. Deuxièmement, une atteinte directe aux droits des salariés. On va supprimer la possibilité de recours du salarié dès lors que la décision du médecin du travail ne lui convient pas. Vous le savez sans doute, dès lors qu'une décision du médecin du travail ne vous convient pas, vous pouvez contester cette décision devant l'inspection du travail. Donc c'est un droit absolument, bien évidemment, essentiel. Il est absolument évident que la question du droit du travail, que porte l'inspecteur du travail, de l'intérêt de la santé de chaque salarié garanti par le Code du travail, c'est absolument essentiel. Eh bien, il ne va plus y avoir possibilité pour les salariés. Ces salariés auront recours à une commission de médecins, c'est-à-dire on reste entre soi, n'est-ce pas ? La décision du médecin du travail pourra être contestée devant une commission régionale constituée de médecins savants. Donc évidemment, le droit de contester cette décision n'existera plus, en fait. on voit bien ce que disaient les juristes qui m'ont précédé. On voit très bien que disons, le droit, la garantie de droit liée à l'administration, c'est-à-dire à l'inspection du travail, est en pleine, déshérence, hein, puisque vous n'aurez plus le droit de consulter les inspecteurs du travail dès lors que vous êtes dans une décision qui ne vous convient pas. Autre élément extrêmement grave, l'aptitude, c'est-à-dire cette fameuse visite de sélection, est retirée au médecin du travail. Ils ne s'en plaignent pas. Je vote pour la motion. Sauf que cette visite d'aptitude est confiée à des médecins qui ne sont pas médecins du travail et qui vont juger sur des critères automatiques pour savoir si vous êtes apte à occuper tel poste ou tel poste. Donc, vous voyez évidemment que ce que je viens de vous dire là est tout à fait désespérant, hein, mais ça vient simplement de sortir il y a 2 jours. Hein, je l'ai reçu avant-hier, le rapport de la commission. Donc vous voyez que, en fait, on est là dans, pour la médecine du travail, ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. Hein, je ne plaide pas pour disons un maintien forcené de la médecine du travail telle qu'elle existe. Je dis simplement que cette construction vise à rompre la visibilité des risques pour la santé du travail, c'est-à-dire pour les travailleuses et les travailleurs. C'est-à-dire, si vous reprenez ce qu'on vient de vous dire, un, les CHSCT. Pourquoi le CHSCT est intéressant? C'est parce qu'il est au contact de la réalité du travail et qu'on ne peut pas identifier les risques professionnels si on n'est pas au contact de la réalité du travail. Donc vous voyez, l'attaque qu'on vient de vous signaler contre les CHSCT s'inscrit dans une construction de l'invisibilité des risques du travail. Deuxième élément, les éléments qui touchent aux experts de CHSCT. Peut-être ça n'a pas été assez signalé. Les experts de CHSCT, du fait de l'ANI, ont vu leurs possibilités d'intervention réduites. Donc, en fait, l'apport technique pour les CHSCT de leurs experts est entravé. Troisième point, la question, bien évidemment, du droit, c'est-à-dire l'affaiblissement du droit à travers 2 institutions, on vient de vous le dire, les prud'hommes, et l'inspection du travail. Hein, le coup d'arrêt qui est donné dans les textes, en particulier dans le fameux texte sur le dialogue social, le coup d'arrêt qui est donné aux possibilités d'intervention de l'inspection du travail est tout à fait caractéristique de cette volonté de bétonner la question de la visibilité des risques du travail. Donc bien évidemment, vous voyez, je vous trace quelque chose d'assez négatif, hein, si tant est que la médecine du travail a eu une image positive parmi vous, parfois difficile quand on fait des formations de CHSCT comme je l'ai fait comme je le fais habituellement, de défendre l'institution, pas défendre les praticiens. Les praticiens, il y en a qui sont indéfendables, donc il faut bien le reconnaître. Mais par contre, l'institution, oui, moi j'y tiens beaucoup parce que elle a comme projet d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. C'est quand même un projet tout à fait neuf, même maintenant. Enfin, je veux dire, c'est un projet qui, si elle est menée à son terme, transforme totalement la vie des travailleuses et des travailleurs. On est quand même sur un projet extrêmement intéressant. Donc après ça, vous le voyez bien, il est complètement sapé, et donc la question de la visibilité des risques est particulièrement, en danger actuellement. Hein. Alors que faire ? On va terminer sur une note un peu moins négative. Que faire ? Bien évidemment, déjà, il faut tracer toutes ces erreurs du passé. Hein. C'est ce péché originel, disons, d'organisation de cette institution. Première chose. Deuxième chose, bien sûr, au coup par coup, il faut lutter contre les attaques que je vous ai décrites et que les juristes vous ont décrites. C'est absolument indispensable que nous opposions dès maintenant à ces projets. Hein. Mais bien sûr, ça ne peut pas suffire. Il faut absolument que nous réfléchissions entre nous, entre vous, entre travailleuses et travailleurs, avec éventuellement l'apport technique qu'on peut mettre sur le tapis. Il faut que nous réfléchissions à un autre système de protection de la santé des travailleurs. Parce que ce que je viens de vous décrire, c'est un système qui a fait les preuves de son inefficacité. 3 fois plus de risques pour un ouvrier de mourir d'un cancer que pour un cadre. trois fois plus de risques pour un ouvrier que pour un cadre de mourir d'une maladie cardiovasculaire. Trois fois plus de risques, malheureusement, d'attenter à ses jours. Hein, donc on est dans quand même un système qui fonctionne depuis 1946 et qui a fait la preuve de son inefficacité. Hein. Donc il faut absolument, c'est la proposition que je vous ferai en terminant, il faut absolument que nous nous mobilisions pour réfléchir ensemble à un système cohérent qui permettrait effectivement de protéger la santé des travailleuses et des travailleurs. Donc je vous signale quand même, pour terminer, qu'il existe un certain nombre d'organisations qui se sont mis ensemble et qui essaient d'organiser à l'heure actuelle, avec l'aide de l'organisation Solidaire, mais aussi d'autres organisations syndicales, d'organiser des états généraux de la santé des travailleuses et des travailleurs qui vont probablement voir le jour au mois d'octobre, mais qui sont ponctués, bien évidemment, cette préparation étant ponctuée par un certain nombre de réunions, de préparatoires et publics. Voilà, hein, je voulais terminer sur cette note optimiste.
Bon, ben maintenant, s'il y a des personnes qui veulent intervenir, poser des questions à Alain Carré, vous êtes les bienvenus.
Bon, ben bonjour. Alors, le premier truc que je vais te raconter, c'est une histoire qui s'est passée à Tourcoing. Je travaillais dans une entreprise, ils faisaient du traitement de durcissement de onduclair, c'est-à-dire du plastique stratifié. Et évidemment, ça sentait très mauvais. J'en parle au chef. Le chef me dit, t'es payé pour travailler, pas pour faire des réflexions. Bon, évidemment, je n'avais pas assisté outre mesure auprès du chef. Je vais donc voir l'inspecteur du travail. Et puis, l'inspecteur du travail, je raconte l'histoire. Il y a beaucoup d'odeurs là-dedans et ça sent mauvais. Et bon, ça ne plaît pas, quoi. Il pourrait faire de la ventilation. C'est tout. L'inspection du travail, le temps qu'elle se décide, peut-être un mois après, ils arrivent en costume-cravate pour l'inspection. Comme j'étais au milieu des ouvriers, j'ai dit, t'as vu combien on va être augmenté, maintenant on va devoir travailler en costume-cravate. Alors évidemment, les gars m'ont dit, ouais, arrête tes conneries, bon ça va, bon. Mais évidemment, ils sont passés, et le soir même, le chef personnel m'a appelé et m'a dit, vous aimez bien respirer l'air pur. J'ai dit, oui, évidemment, tout le monde aime bien respirer l'air pur, donnez-vous à votre compte, vous pouvez dégager. Voilà. Là, évidemment, je viens travailler à Paris, puisqu'il fallait que je trouve du travail. Il y avait peut-être un peu plus de 6 mois, j'étais à Paris. Je lis le journal et j'apprends que l'usine de Tourcoing a explosé. Il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu quelques blessés. Avec ma plus belle plume, j'écris au préfet de Lille et je lui raconte ce qui m'était arrivé. Et ensuite, que j'avais été licencié parce que j'avais signalé les gaz délétères, comme on pourrait dire. Alors, j'ai jamais eu de réponse. C'était en 1957, j'attends encore la réponse. Mais, par contre, quand je suis retourné dans le secteur, j'ai appris qu'il y avait eu une enquête et qu'il y avait eu des problèmes pour la direction, que quand même une enquête avait été faite. Bon, ça n'a pas changé grand-chose. Bon, ça, c'est dans le privé. Hein. Mais après, je pourrais te raconter d'autres histoires, notamment pour les poids lourds.
Oui, non, simplement, je voulais vous indiquer un bouquin très très intéressant, c'est ce que tu dis qui me l'évoque là, c'est aux presses universitaires de Rennes, et ça s'appelle « La santé au travail, 19e, 20e siècle, entre savoir et pouvoir ». Donc c'est des sociologues qui ont écrit ça, mais c'est très intéressant, ça se lit très bien, et ça montre comment se construit, à partir du 19e siècle, l'union sacrée entre les employeurs, l'État et les médecins. Et on suit cette progression jusqu'à nos jours, pratiquement, dans les années 70. Voilà. Donc je voulais simplement signaler cet ouvrage qui est absolument inconnu, qui se lit très bien, qui est très, très agréable à lire parce que c'est en fait une sorte de voyage dans l'histoire, à part des petits articles très courts. Et je vous invite à vous le procurer. Alors ça s'appelle La santé au travail, 19e, 20e siècle, entre savoir et pouvoir. Voilà, presse universitaire de Rennes.
Ça me fait penser à ça, ton histoire.
Bon, d'autres questions, d'autres interventions ?
Bonjour, je voudrais savoir que font les médecins du travail aujourd'hui pour garder leur indépendance par rapport aux employeurs, parce que j'ai souvent l'impression que ce n'est pas le cas, et surtout de rester objectif.
Oui, c'est une très très bonne remarque, mais tout a été fait pour les mettre en sujétion. Donc y en a qui échappent, hein, heureusement, hein, sinon bon. Si on me demandait comme ça un chiffre, je dirais, allez, bon, je dirais 10%, hein, voilà, 10%. C'est les adhérents à l'association dont je suis vice-président, association SMT souvent, hein. C'est-à-dire c'est des gens qui travaillent en réseau et donc qui se soutiennent les uns les autres, hein. Là, par exemple, pendant que j'écoutais la conférence d'avant, j'ai un coup de fil d'une collègue qui très probablement a besoin d'un coup d'épaule. Voilà. Mais ils sont très peu nombreux. Alors, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ceux qui sont foncièrement, disons, patronaux, hein. Il n'y en a pas plus, finalement. Le gros problème des médecins du travail, c'est que pour 80% d'entre eux, ils ne savent pas où ils habitent. Ils n'ont pas compris. Il y a des déterminismes de classe, sans doute. Bon, ça va de soi. Mais ils n'ont pas compris réellement qu'ils avaient mis le pied sur une mine. Parce que leur responsabilité personnelle est engagée. Hein. C'est ça qu'il faut leur rappeler. Hein. C'est-à-dire, si effectivement, ils n'alertent pas sur les risques professionnels, personnellement et pénalement, ils sont responsables. Je vous invite précisément à leur dire, avec beaucoup d'élégance, quand vous les rencontrerez la prochaine fois.
Je vais faire suite à la question de la dame. Qu'en est-il de leur serment d'Hippocrate ?
Oui, vas-y, je te répondrai.
En fait, je voudrais parler de mon frère, mais bon, moi, je travaillais pas. Mon voisin l'a travaillé avec lui. Donc, mon frère a fait, je pense qu'on qualifierait ça de burn-out. Et il s'est suicidé le 20 décembre. Il était en dépression depuis le mois d'août. Il n'a jamais vu de médecin du travail, à part quand il était au funérarium, puisque la médecine du travail, c'était à côté. Par contre, donc, il s'est suicidé un samedi. Le vendredi, il avait eu un coup de téléphone de la DRH. Et on a retrouvé dans sa voiture, parce qu'il s'est écrasé volontairement contre un arbre avec sa voiture, on a retrouvé sur lui un papier que la DRH lui avait fait faire. Donc il était en pleine dépression, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est que la dépression. Elle lui avait fait faire deux colonnes avec mes points forts, mes points faibles. Il y avait un autre petit exercice. Elle lui avait donné des exercices à faire pour le lundi, réfléchir à comment je peux m'améliorer. Et elle lui avait dit que s'il n'allait, parce que mon frère ne voulait pas reconnaître qu'il était en dépression, mais il n'avait pas vu de médecin. Et elle lui a dit aussi que s'il voyait pas de psychologue, s'il n'allait pas voir un médecin, elle le déclarerait inapte au travail. Donc ça, c'était le vendredi. Il était en congé. Elle a appelé chez lui. Elle lui a fixé ce rendez-vous. Et le samedi, il est mort. Donc, et depuis, elle a été mutée. Elle a été sur une autre entreprise. Alors peut-être que là, c'est un collègue de mon frère. Donc je ne sais pas ce qui s'est fait à l'interne. Enfin, voilà. Donc moi, j'étais très en colère. Mais bon, maintenant, j'ai tout laissé tomber. Mais si le médecin, il est responsable pénalement, ça m'intéresse. Et quid de la DRH ? Est-ce qu'elle n'a pas usurpé... depuis quand les DRH s'improvisent psychologues, quoi ? Enfin, voilà, quoi.
Juste une précision, excusez-moi. Il avait bien vu le médecin du travail, qui l'avait déclaré apte, mais en lui demandant de consulter un psychologue. Et une question subsidiaire, excusez-moi, j'arrive juste, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais c'est un médecin c'est plus un médecin inter-entreprise, on a changé, c'est un médecin groupe. Je ne sais pas si vous avez parlé de ça, de ces deux systèmes. Et de ce que vous en pensez.
Oui, bon, pour répondre à la question, là, bon, on est effectivement devant quelque chose qui est une ingérence d'un employeur à l'intérieur même de quelque chose sur lequel on n'a pas de droit d'ingérence, qui que ce soit, à savoir le domaine de la vie privée de la santé. C'est couvert par un article du Code de la santé publique, qui est l'article L1110-4, qui punit quelqu'un qui tenterait d'obtenir ou qui obtiendrait des renseignements sur la vie privée d'une autre personne de 3 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Hein. Donc, effectivement, cette DRH a pris un risque, puisqu'elle s'est immiscée, bien évidemment, sans compétence aucune dans la santé du salarié, et donc malheureusement, très probablement, elle a joué un rôle dans la survenue du drame que vous racontez. Ce drame était bien évidemment un accident du travail. Je pense qu'il a dû être déclaré comme tel. C'est typiquement quelque chose qui relève d'une déclaration d'accident du travail. Je signale que les proches, ce qu'on appelle les ayants droit, ont 2 ans pour déclarer un tel accident du travail entre le moment, malheureusement, où c'est arrivé et le moment où la déclaration aura lieu. Donc ça, c'est pour répondre à votre question. Deuxième question, c'est est-ce qu'il vaut mieux être suivi par un médecin qui appartient à l'entreprise ou par un médecin de service inter-entreprise ? Alors, c'est pas si tranché que ça. Il vaut mieux, bien évidemment, être suivi par quelqu'un qui a le temps de vous suivre. Et ça penche plutôt du côté des médecins, disons, qui appartiennent à l'entreprise, des médecins du travail qui ont un service à l'intérieur de l'entreprise. Les autres, les médecins du travail des services inter, ils n'ont absolument plus le temps. Ils ont 5600 salariés à suivre. Hein, un médecin de service, disons, autonome, comme on dit, hein, c'est-à-dire, lui, il va taper aux alentours de 1500, 1800, 2000 au maxi. Hein. Donc, évidemment, il va avoir plus de temps. Ça ne veut pas dire que l'un va être meilleur que l'autre. Hein, parce que, bien évidemment, le coefficient, professionnel joue énormément. C'est ce que disait Ayat à un instant. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur serment d'Hippocrate ? Bien sûr, ils l'ont pas oublié. Sauf qu'ils sont dans la toute-puissance. Ça, c'est un truc que les médecins... Faut s'en méfier. Il y a des médecins modestes, moi, j'en fais plutôt partie. Et puis, il y a des médecins qui sont dans la toute-puissance. Et ils pensent qu'ils vont faire le bonheur des gens contre eux. C'est-à-dire, en fait, que malheureusement, il y a la santé sociale. Vous savez que si on vous met inapte, vous allez gicler de l'entreprise hein, et que vous n'aurez pas d'emploi. Hein. Et donc, ils ne prennent pas ce coefficient, alors qu'ils devraient, bien évidemment, puisque la santé ne se partage pas, la santé sociale, c'est un tout. La santé, c'est un tout, la santé sociale en fait partie. Et donc, ils vont raisonner uniquement par rapport au risque immédiat. Ils ne vont pas raisonner par rapport aux intérêts du salarié. Or, le but de l'exercice en médecine du travail, c'est de restituer ou de conserver aux gens leur pouvoir d'agir. La santé se construit autour de notre pouvoir d'agir. Quand nous avons des marges de manœuvre, nous pouvons agir et donc construire notre santé. Donc un médecin du travail, malheureusement, il a oublié ça, celui qui agit de façon autoritaire. Il n'a pas compris que son rôle à lui, c'était de permettre des marges de manœuvre aux salariés de façon à ce qu'il puisse exercer son pouvoir d'agir. J'insiste beaucoup sur ce point, parce que c'est ce qui fait la différence entre un médecin du travail qui est un médecin du travail et un autre médecin qui se prétend médecin du travail mais qui n'en est pas un. Hein, un médecin du travail, c'est quelqu'un qui va respecter l'autonomie, qui va permettre à chacune et à chacun de réfléchir sur sa situation de santé, bien évidemment, mettre en place des mesures de protection, plutôt collective d'ailleurs que individuelle. Donc la question du pouvoir d'agir est au cœur de l'exercice du médecin du travail. Si vous voulez savoir si un médecin du travail est un véritable médecin du travail, hein. Il y en a des faux, il y en a des vrais, donc si c'est un vrai, il va respecter, il va vous écouter, il va essayer de comprendre et de vous faire comprendre ce qui se joue pour vous. C'est ça le but de la visite médicale, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on veut supprimer la visite médicale, parce que c'est le seul lieu où vous allez prendre un temps de respiration pour réfléchir au rapport entre votre santé et votre travail, aidé par un spécialiste qui est le médecin du travail.
Moi, je voulais reprendre la question de l'indépendance des médecins du travail et l'illustrer par un exemple. Donc, je travaille dans la région de Sochaux, donc où il y a l'entreprise Peugeot qui compte à peu près 12 000 salariés, qui a son propre système, enfin, ses propres médecins du travail, donc embauchés là, par l'entreprise. Et donc, bon, c'est très difficile pour eux de faire respecter un peu les contre-indications médicales des salariés. Et donc, ils sont à peu près une dizaine de médecins du travail. Et il y a une femme médecin du travail donc, qui, dans les comptes rendus annuels qu'ils doivent faire à l'entreprise, avait bien mis en évidence donc, toutes les situations de travail, enfin les conditions de travail qui amenaient des problèmes. Et donc, ce médecin a été menacé de licenciement. Et finalement, donc ça s'est soldé. Bon, elle est partie dans le cadre d'une transaction, hein, mais elle a été vraiment poussé par la, vers la sortie. Bon, maintenant, je voudrais parler un petit peu, moi, de ce que je vis dans le cadre de mon travail, puisque je suis assistante sociale dans une caisse de retraite. Et donc, une de nos missions, et ça s'appelle pompeusement, donc éviter la désinsertion professionnelle des salariés. Donc, dans ce cadre-là, donc, on est amené à suivre les salariés en arrêt de travail. Et la plupart des salariés que nous rencontrons donc, nous sont signalés par les médecins conseils de la Caisse de Sécurité sociale qui se dédouanent un peu sur nous hein, en remettant très rapidement les gens au travail et les orientant vers le service social pour un reclassement professionnel. Donc notre institution donc, nous met la pression pour réussir donc, des reclassements professionnels, ce qui est très difficile dans le cadre de la conjoncture actuelle, donc avec toute une série de petites entreprises de sous-traitance pour l'automobile, beaucoup aussi d'entreprises du bâtiment avec beaucoup de travailleurs immigrés donc, qui ne possèdent pas toujours la maîtrise de la langue pour entreprendre des formations, pour éventuellement se reclasser sur un autre métier. Voilà, donc c'est très difficile pour nous. Dans ce cadre-là, nous travaillons bien sûr avec les médecins du travail, en les contactant pour savoir déjà si dans l'entreprise, par rapport au métier de la personne, il y a des possibilités de reclassement, parce qu'il y a des entreprises où ce n'est pas du tout possible. Dans le bâtiment, par exemple, que vous soyez maçon ou carreleur, c'est à peu près le même degré de pénibilité, donc ce n'est pas toujours possible de reclasser les personnes. Nous travaillons dans ce cadre-là avec une association qui s'appelle le SAMET, le service d'accompagnement et de maintien dans l'entreprise des travailleurs handicapés, donc avec un médiateur qui va intervenir directement dans l'entreprise, puisque nous, en tant qu'assistante sociale, on ne peut pas entrer dans l'entreprise. Donc ce médiateur travaille donc avec, en concertation avec le médecin du travail et va rencontrer donc l'employeur pour voir si concrètement il y a des possibilités matérielles, techniques d'aménager le poste du travail. Donc c'est, très souvent il n'y en a pas beaucoup, ou même quand ce médiateur trouve des solutions techniques en apportant même les subventions nécessaires pour que ça ne coûte pas trop cher au patron, très souvent ça n'aboutit pas parce que l'employeur peut refuser. Donc voilà, c'est très, très compliqué. Je voulais juste dire que mon employeur s'appelait avant la CRAM, Caisse Régionale d'Assurance Maladie, s'appelle maintenant CARSAT, Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail, et n'est pourtant pas un exemple de maintien de la santé au travail de ses propres salariés, puisque nos conditions de travail se dégradent tous les ans. On nous rajoute des missions supplémentaires très régulièrement en supprimant le personnel, puisque les départs à la retraite sont remplacés que 1 pour 3 et que les congés de longue durée ne sont pas du tout remplacés. Voilà.
Oui, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est la question de l'inaptitude. La question de l'inaptitude au poste de travail, je dis bien au poste de travail, hein, je ne dis pas l'inaptitude au travail, hein, l'inaptitude au poste de travail, à l'heure actuelle, hein, les statistiques sont assez claires, elles se sanctionnent par 90% de licenciements. Hein, 90% de licenciements, 72% des salariés ne retrouveront pas de travail. 50% de ces inaptitudes reposent sur des maladies ou des invalidités acquises du fait du travail. Donc vous voyez que là, on est vraiment au cœur de la question, c'est-à-dire en fait, les gens perdent leur vie à la gagner. Si on vous supprime votre capacité d'emploi parce que vous avez été abîmé par le travail, c'est ce que j'appellerais moi une double peine. Hein ? Il me semble qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine quand même, parce que 90% de licenciements pour inaptitude au poste de travail, c'est absolument énorme. Hein, la majorité des gens, bien évidemment, sont âgés de plus de 50 ans.
Alors, moi rapidement, mon employeur, c'est l'État, puisque je suis enseignant depuis une quinzaine d'années et je n'ai jamais eu de visite médicale. Et autour de moi, je ne connais aucun prof qui n'a jamais connu une visite médicale, même proche de la retraite. Voilà. Donc, ma question, elle est un peu là quand même. C'est quelle est la différence un peu entre le public et le privé ? Alors, juste pour information, je suis au rectorat de Lille et il y a deux médecins quand même du travail pour 60 000 enseignants. Voilà. Donc, la question un peu, elle était là entre le public et le privé, justement.
Oui, alors bon, c'est un cas particulier. Hein. On est dans l'éducation nationale. Hein. Si vous prenez par exemple la fonction publique hospitalière ou la fonction publique territoriale, hein, les deux autres fonctions publiques, les choses sont plutôt en voie d'amélioration, ce qui est un paradoxe, hein, ce qui est un paradoxe, puisque bien évidemment, de l'autre côté, la médecine du travail dans le secteur privé est en train de s'effondrer. Hein. Donc, je vous invite à lire les circulaires d'application des textes spécifiques pour la santé au travail dans ces deux fonctions. Mais bien évidemment, la fonction publique d'État et d'éducation échappe totalement à ces velléités, mais qui, à mon avis, n'auront qu'un temps extrêmement limité.
Bon, alors, attendez, je vois plein de mains se lever. Levez-les bien haut. Oh là là là. Bon, je ne sais pas si on va pouvoir prendre tout le monde.
Il y a quelqu'un dans le fond là-bas qui insiste beaucoup.
Moi, je voulais juste compléter ce que dit monsieur, parce que moi, je suis infirmière scolaire. Donc, il n'y a pas que des enseignants hein, dans l'éducation nationale. Il y a beaucoup d'autres personnels qui n'ont pas non plus les visites médicales. Et je voulais faire un parallèle avec la médecine scolaire. Oula. Moi, je suis dans le Loiret. Il nous manque 14 médecins. Ouais. Voilà, c'était juste le petit parallèle.
Oh, oui.
Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de la formation à la fois des DRH et des médecins concernant le respect du secret médical ? Parce qu'il y a des échanges d'informations entre les DRH et des chefs de service et le médecin du travail. Donc, quid du secret et entre autres, je voulais savoir comment que les salariés, y compris dans le public, comment ils font pour avoir accès à la totalité de leur dossier de médecine du travail quand la DRH bloque ?
Ça, oui, ça, c'est assez simple hein, de répondre à ça. Bon, le secret médical est absolu. Hein, c'est-à-dire, en gros, le secret s'applique de médecin à médecin. Hein, je ne sais pas si vous le saviez, mais le secret s'applique de médecin à médecin. Donc, pour vous dire qu'il s'applique forcément vis-à-vis d'un employeur. Hein. Donc, c'est réglé par l'article L1110-4 du Code de la santé publique qui punit toute transgression de 3 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Je vous invite donc, si vous avez la preuve, hein, attention, c'est compliqué, hein, si vous avez la preuve que votre médecin du travail a rompu le secret médical et que l'employeur a fait des efforts pour rompre ce secret médical, portez plainte au procureur. Voilà. Ne perdez pas de temps avec le Conseil de l'ordre. Hein. Mais attention, hein, il faut que vous ayez la preuve. Hein. C'est très très compliqué d'avoir la preuve. Accès aux données. Le secret médical n'est pas opposable au patient. Le patient... Article L1111-7 a accès à tout document du Code de la santé publique, accès à tout document, y compris l'intégralité de son dossier médical. Il peut en exiger des photocopies. Malheureusement, on peut lui faire payer le prix des photocopies. Voilà. C'est la seule limite, dirais-je, avec quand même un petit bémol qui est qu'il a 8 jours francs pour donner accès au dossier. C'est une disposition que je trouve extrêmement négative, hein, parce qu'on peut évidemment, retirer un certain nombre de pièces d'un dossier médical pendant ce délai de 8 jours. Hein, mais bon, j'ai mauvais esprit, sans doute. Voilà. Hein, donc c'est simplement pour vous dire que le médecin est responsable personnellement et pénalement des règles de secret qui s'appliquent au dossier médical, mais que vous y avez accès avec un délai de carence de 8 jours. Voilà. Il est condamnable pour avoir tenté d'obtenir. Ouais, ouais. Enfin,
moi, je voudrais rendre hommage quand même à un médecin du travail. Je travaille à l'assistance publique de Paris, mm-hmm. Et pendant des années, le CHSCT, c'était un représentant par syndicat. Enfin, c'était complètement aberrant. Hein, et tout le monde s'en contentait, aussi bien les syndicats que la direction. Les questions des salariés, c'était en questions diverses. Avec 5 minutes à la fin du CHS. Et donc, c'était un médecin du travail qui on était deux de la CGT à l'époque, qui nous ont dit, qui essayaient de remettre dans les brancards sur ce problème, parce que personne ne bougeait, hein, même à l'assistance publique, à la direction des syndicats, hein, tout le monde s'en contentait. Et elle nous a dit, on était deux à ruer dans les brancards, elle nous a invités chez elle, et elle nous a fait des cours sur le CHSCT, et les droits qu'on avait, et comment il fallait faire. Et on s'est bagarré, et en fin de compte, on a réussi à obtenir un CHS correct dans toute l'assistance publique de Paris, grâce à elle. Voilà. Donc, il y a des médecins quand même qui...
Oui, non, mais j'en suis persuadé, hein. J'en connais. Mais simplement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est un échange de bons procédés. C'est-à-dire que le médecin du travail, lui, compte sur le fait que les salariés vont se mobiliser si on fait pression sur lui. J'en suis un exemple. Je suis resté 32 ans à EDF. Je ne vous raconterai pas ma vie professionnelle. Mais à chaque fois, les syndicalistes sont montés en ligne pour me permettre de continuer à travailler. Donc, vous voyez, c'est un échange de bons procédés mutuels. Hein ?
Bonjour. Alors, voilà, moi, je suis psychiatre, donc je suis médecin. Je travaille dans le service public... à l'hôpital comme au centre de consultation. Et donc aujourd'hui, moi, donc je travaille beaucoup avec des patients qui sont reconnus en handicap psychique. Hein. Et alors déjà, on n'a aucune formation, il faut le savoir, hein, pendant toutes les études de médecine, à qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va se retrouver en relation avec des patients qui ont des problèmes au travail. Enfin voilà, ça c'est juste pour une information générale. Mais moi, je me retrouve dans un cas un peu particulier avec un certain nombre de patients qui, eux veulent travailler, ont un souhait très fort de continuer à travailler, mais ça ne se passe pas toujours très bien sur le lieu du travail. Et j'ai notamment un cas très particulier, mais avec une médecin du travail qui bafoue complètement le secret médical. Hein, et là, vu ce que vous avez dit tout à l'heure, je me demande si je ne vais pas essayer un moment avec la patiente de faire quelque chose vraiment d'un point de vue légal. Hein. Mais donc je me retrouve avec des médecins du travail qui me disent à moi de faire les arrêts maladie. Alors déjà, moi, je trouve ça un petit peu particulier comme fonctionnement. Vous allez peut-être me dire que c'est normal, hein. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que moi, je me retrouve dans le cas où, d'un point de vue de mon savoir-faire autour de la capacité ou non du travail, donc c'est-à-dire que moi, je reconnais que non, la maladie que je soigne avec ce patient-là n'empêche pas le travail, et ben la médecine du travail bloque et me dit, et m'appelle, etc. Et me dit non, moi je ne souhaite pas. Et donc c'est à vous quand même de faire les arrêts de travail. Donc déjà ça me met dans une position avec le patient, mais qui est complètement folle en fait. Et du coup je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire. Alors certes, pour un cas particulier, effectivement la médecin du travail m'a renvoyée sur le SAMET, qui a reconnu comme moi finalement les capacités de ce patient, etc., etc. Et malheureusement, ben, finalement, la patiente a quand même eu une vraie décompensation beaucoup plus grave que ce que j'imaginais par rapport à moi, la maladie de départ. Et du coup, je me retrouve de nouveau à la case départ avec le médecin du travail qui refuse toujours qu'elle reprenne son boulot alors qu'on l'a restabilisé, etc., hein. Et qui me renvoie de nouveau avec le SAMET, avec une expertise psychiatrique, etc. Enfin voilà, ça tourne en rond et moi je ne peux plus faire mon travail après vraiment de médecin qui doit aider cette patiente dans la relation et dans ce qu'on peut faire avec elle, quoi. Et je rencontre de plus en plus de situations comme ça.
Oui, c'est assez typique d'une situation dans laquelle le médecin du travail fait barrage pour l'employeur, hein. C'est-à-dire en fait, l'employeur... Alors peut-être qu'il ne le fait pas, disons, volontairement, mais disons, il imagine que l'employeur ne va pas pouvoir reclasser ce salarié s'il le met apte. Hein. Donc là, c'est très simple. Un, il faut refuser de faire des arrêts de travail. Deux, il faut que le salarié se présente à la visite d'embauche ou à la visite de reprise. Trois, si le médecin du travail le reconnaît inapte, à ce moment-là, il faut saisir l'inspecteur du travail. Ce qui fera rentrer en ligne le médecin inspecteur régional du travail, qui, lui, jugera du point de vue des droits du salarié. Hein. Mais surtout, il ne faut pas céder au chantage de l'arrêt de travail. Parce que ça, le médecin du travail demande qu'on mette le salarié en arrêt pour ne pas prendre la décision qui va le mettre en difficulté. Hein. Donc, pas d'arrêt de travail dans ces cas-là. On fait reprendre et on conteste l'avis du médecin du travail s'il n'est pas correct.
Bonjour. Donc je suis un militant de la CGT, un camarade évidemment d'Alain Carré, puisqu'on est travaille dans la même entreprise, EDF-GDF, ce qu'il en reste. Je suis aussi un secrétaire de CHSCT, comme il en existe bien d'autres sur le territoire et dans les entreprises. Et tout à l'heure, le docteur Alain Carré précisait que, et c'était mon propos d'ailleurs, je vais le reprendre quand même parce que ça me semble important, je pense pour qu'un médecin du travail puisse pleinement exercer son activité, sa responsabilité sur le domaine de la santé au travail, face à un employeur qui n'a de cesse que de vouloir faire des économies et profiter des situations pour virer des gens. Moi, je vais le dire comme ça, je fais un résumé. Je dirais que pour que ce médecin du travail puisse pleinement assurer ses responsabilités, faire son travail, il faut que le CHSCT, les représentants du personnel au CHSCT, soient d'un soutien inconditionnel du médecin du travail. Ça renforce son pouvoir, sa légitimité. Bien souvent, le CHSCT est minimisé par rapport à son pouvoir. L'inquiétude, évidemment, dans le débat précédent sur la loi Macron et les enjeux, les conséquences, etc., vont avoir des impacts directs. J'étendrai ça aussi plus sur l'aspect du débat, sur la question de, un, combien y a-t-il de médecins du travail sur le territoire, dans les entreprises, qu'elles soient inter-entreprises ou inter-établissements, ou en médecine indépendante dans des entreprises telles que DFGDF, SNCF, etc. Ensuite, combien y a-t-il d'inspecteurs du travail sur le plan national? Combien y a-t-il d'agents de la CRAMIF ou de la CARSAT sur le plan national? Et je pense que déjà, on va voir, ça va mettre en lumière cette réforme de structure dans les différentes instances où qui possède un devoir de contrôle et de mise en demeure d'un employeur. Et je terminerai sur la chose suivante. Je ne vais pas être trop long. La notion de ces différentes instances. Et puis tout à l'heure sur les questions du burn-out, qui est la conséquence liée en lien avec le travail et l'organisation du travail sur ce que l'on appelle le Lean Six Sigma. C'est le Lean Management, l'excellence opérationnelle, la performance opérationnelle, toutes ces organisations du travail, du type France Télécom, du type Carglass, etc., avec l'obtention du gain de productivité à outrance et qui met des travailleurs cadre ou non cadre, dans des situations avec des conséquences graves sur la santé physique et mentale, quand ils sont exposés à ces... Mais même la fonction publique, même le secteur privé, est exposé à ces organisations de travail, et on a besoin d'une médecine du travail indépendante, et un CHSCT, des instances IRP, institutions représentatives du personnel du Code du Travail. Mais moi, j'ai bien peur que, et c'est pour ça tout à l'heure je parlais de un jour, on se demande si on va pas être obligé de faire justice soi-même. Et c'est très grave quand on en arrive à des situations individuelles plutôt que collectives. Merci.
Oui, simplement pour dire que le médecin du travail, il y en a 5600 à l'heure actuelle, mais ça baisse tous les jours. Et disons, il y a 85% de ces médecins du travail qui travaillent en service de santé au travail inter-entreprise. Donc pour répondre à ta question... disons que le médecin du travail est le conseiller des représentants du personnel. C'est-à-dire, ça, c'est très très important. Vous pouvez lui demander qu'il vous conseille. Moi, il m'est arrivé, c'était assez régulier, je faisais des préparatoires de CHSCT avec les représentants du personnel. Hein. Donc, c'est tout à fait normal, je ne me cachais pas, c'était dans mon activité. Je conseillais la représentation du personnel. Dès lors que le chef d'établissement désirait me voir pour avoir mes conseils, j'allais voir le chef d'établissement, ça ne me gênait en rien. Simplement, je vous signale que le médecin du travail doit se trouver, disons, à équidistance, hein, entre le responsable de l'entreprise ou son préposé, comme on dit, et la représentation du personnel, et chaque salarié à titre individuel. Donc il faut bien jouer sur cet aspect des choses, c'est-à-dire lui rappeler qu'il n'est pas simplement là pour la question économique, que la question économique est une question qui ne l'intéresse pas dans son exercice. Bien sûr, elle est intéressante globalement, je veux dire, bien évidemment, si la situation économique de l'entreprise est désastreuse, la santé des salariés va être en péril. Et c'est pas un imbécile, le médecin du travail, il doit bien s'intéresser à cette question-là. Mais il ne faut pas oublier que son premier objectif, c'est d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Ça lui impose donc d'avoir une vision uniquement centrée sur l'intérêt de la santé des salariés et non pas sur la gestion de la sécurité. Ce que font habituellement les experts prévention des employeurs. Ce n'est pas un expert prévention de l'employeur. C'est un spécialiste de la santé au travail. Son objectif est uniquement la santé des travailleuses et des travailleurs. Et attention, dans la réalité de leur travail. Hein, je vous ai cité l'article de loi « Éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail », c'est-à-dire du travail réellement effectué dans les conditions réelles de travail par ce salarié à ce poste-là, dans cette entreprise-là, à ce moment-là. Donc c'est un exercice qui est un exercice, disons, quotidien. C'est un exercice de réalité quotidienne et tourné uniquement vers la santé des travailleurs. Donc j'insiste beaucoup là-dessus parce que si vous rappelez ces devoirs à un médecin, en général, en particulier si vous tapez sur la déontologie médicale, en général, ça le met en difficulté. Hein ? Si vous lui dites, attention, là, vous êtes en dehors de la déontologie médicale, vous avez prêté serment, ça le met en difficulté. Il faut lui rappeler ses devoirs.
J'avais une question à propos des médecins conseils qui ont des directives de la CPAM pour minimiser les taux d'incapacité suite à des AT ou à des maladies professionnelles et qui n'ont qu'une hâte, c'est de remettre les salariés au travail malgré leur état de santé.
Bon, moi, c'est un domaine que je connais mal. Hein. Je n'en ai qu'une vision, disons, malheureusement, à travers un certain nombre de cas individuels. Je suppose qu'il y a des médecins conseils qui font leur travail, comme il y a des médecins du travail qui font leur travail. Néanmoins, il y a la question économique qui est devenue absolument, l'arbre qui cache la forêt. Hein. C'est-à-dire, en fait, toute la question de la santé, à l'heure actuelle, est gérée du point de vue de l'économie. C'est-à-dire du point de vue du rendement financier. Enfin, c'est absolument insupportable qu'une institution qui était une institution de droit devienne une institution de gouvernance, comme dit Supio, là, le professeur au Collège de France, dont je vous recommande le bouquin qui s'appelle c'est les cours d'Alain Supio au Collège de France, s'appelle la gouvernance par les nombres. Et lisez ça, ça va vous apprendre énormément de choses. C'est chiant à lire. Enfin bon, moi j'ai trouvé que c'était un peu chiant quand même. Mais en tout cas, il y a plein de pistes d'explication de la situation dans laquelle nous nous trouvons, qui est une situation, disons, scandaleuse. On ne peut pas gérer une société comme on gérerait une entreprise. Une société, c'est quelque chose qui doit vivre. C'est un organisme vivant et chacun doit y trouver son compte. Sinon, la société se débande, la société se délite. C'est ce qu'on voit à l'heure actuelle sous nos yeux. Hein. Donc, bien évidemment, l'avenir est dans les luttes.
J'ai une petite question. J'ai une petite question parce que je travaillais dans une entreprise, il y avait 40 000 personnes. Et il y avait à peu près 2 000 chauffeurs de poids lourds. Et alors, évidemment, il y avait une visite médicale et régulièrement, il y avait des prises de sang. Et à cause de la prise de sang et du taux d'alcoolémie dans le sang, ils étaient arrêtés. Et bon, on ne les licenciait pas. Simplement, il fallait que le taux baisse et ensuite, ils pouvaient reprendre. Alors, en annexe, il y a la question, évidemment, de tous les poids lourds qui circulent sur les routes de France et qui, évidemment, n'ont absolument aucun contrôle de santé, quoi qu'il arrive, que ce soit les entreprises françaises ou même étrangères, éventuellement.
Moi, je terminerai là-dessus. Hein. Juste un mot. Moi, quand on me parle d'addiction, je réponds travail. C'est-à-dire que pour moi, les addictions sont, pour une majorité d'entre elles, liées aux conditions de travail. Si vous avez vu l'alcoolisme diminuer dans le bâtiment, alors que c'était un fléau, c'est parce que les conditions de travail se sont légèrement améliorées. Il y a un lien absolument étroit entre la consommation d'alcool, la consommation de cannabis et les conditions de travail, j'en suis intimement persuadé. Je pourrais vous donner des exemples. Bon.
Bon, on remercie beaucoup Alain Carré de son intervention. S'il y en a qui veulent continuer à discuter avec lui, c'est quand même possible, peut-être juste à l'extérieur du chapiteau. Mais maintenant, la parole va être à Annie Thébaumoni, qui est présidente de l'association Henri Pézerat Travail, Santé, Environnement, auteur du livre « La science a servi », qui va être, j'espère, mis en vente là tout à l'heure, ici, et aussi qui a dirigé cette grosse somme qui s'appelle « Les risques du travail pour ne pas perdre sa vie à la gagner ».